Lizzie présente La chute de la maison White de Catherine Auté. Lue par Sébastien Desjours. Avec la participation de Caroline Claus. À ma famille. Le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié, parce qu'il a été proprement fait. Balzac, le père Goriot. Mardi 17 octobre, New York. Chapitre 1. Je venais de m'engager sur Madison Avenue lorsque je le vis. Il n'avait pas changé. Toujours ce regard bleu d'enfant des publicités Kinder, cette mâchoire carrée, ses épaules larges. Je m'approchais. Le soleil rasant de l'après-midi se reflétait sur son sourire éclatant et je dus plisser les yeux pour voir le titre qui s'étalait sous la photo. Le Mystère White hurlait de grosses lettres jaunes sur fond rouge en couverture du National Enquirer. Et en plus petit, le sous-titre. Un mythe assassiné. Ils étaient tous là. Le patriarche, Edith, Caroline, Skip. Leurs sourires étaient figés. Leurs habits élégants, vestes et pantalons de toile pour les hommes, robes cocktail et petits talons pour les femmes. Il s'agissait d'une photo officielle, sans doute empruntée au site web de la Fondation familiale. Remarquant mon intérêt, Winston, le kiosquier, m'adressa un signe de tête. « Tu veux ce torchon, bro ?» J'aurais pourtant parié que c'était pas ton genre de lecture. Il fit claquer sa langue. « Mais si tu le veux, il faut te dépêcher. Ça part comme des petits pains, ce truc-là. » Winston, qui un jour m'avait raconté n'avoir jamais quitté New York de sa vie, parlait néanmoins avec un mélodieux accent du Sud, sans doute hérité de ses parents ou de ses grands-parents. Il me sourit de toutes ses dents et agita le journal de la main pour m'appâter davantage. « Ce type, le grand blond là, en couve, il te ressemble, tu trouves pas? Comme si vous étiez frère. » Je secouai la tête. « Merci, Win, mais on n'est pas frère. Et d'ailleurs, j'ai les cheveux bruns. » Non. Pensais-je en m'éloignant. Je n'allais tout de même pas acheter ça. Pour me tenir au courant de la vie de mon meilleur ami, il me suffisait de lui passer un coup de fil. Je sortis même mon téléphone avant de le ranger aussitôt. J'ignorais quelles ignominies l'Enquirer avait publiées. Je ne voulais pas laisser Skip s'imaginer que j'avais lu l'article ou pire, que je l'appelais pour me gosser. Et puis, je devais me dépêcher. Victoria m'attendait sans doute déjà. Notre réservation au Di Stefano's, un restaurant italien de quartier qui fut le lieu de notre tout premier rendez-vous, ayant été prise pour 20h. Je devais encore me changer et glisser dans ma poche la petite boîte verte qui attendait son heure au fond de mon tiroir à chaussettes depuis 3 mois déjà. En me frayant un chemin parmi la foule dense du soir, des mères de famille chargées de courses et de bébés en poussette, des jeunes cadres dynamiques au teint terreux, des petites vieilles pomponnées aux cheveux aussi fins que la brume, je m'imaginais la surprise de Victoria. Elle ne s'y attendait pas, j'en étais sûr. Nous ne nous connaissions que depuis 6 mois et vivions ensemble depuis 2. Mais quand on rencontre l'âme sœur, on le sait, c'est une évidence. Le trottoir, mouillé par une récente pluie, était parsemé de feuilles mortes, jaunes et rouges comme la couverture de l'Enquirer. Je me dis que je pourrais toujours appeler Skip le lendemain matin. J'aurais une annonce à lui faire, et c'était une occasion rêvée de reprendre contact, de parler d'autre chose que d'un article paru dans un journal à scandale. Ou pas. Un deuxième kiosque se dressait devant moi, et là aussi, la famille White était à l'honneur, ou peut-être au déshonneur. Je ne savais plus très bien. Le New Yorker avait consacré sa couverture à Edith. Newsweek avait opté pour la photo du patriarche, William White. Je m'arrêtais pour lire les manchettes. La vérité selon Edith. Un secret de famille. Même le New York Times s'y était mis et titré un article de première page, chronique secrète de la chute des géants. Et juste en dessous, il y avait l'immonde Daily News. Elle plante un couteau dans le dos de son père. Qu'est-ce que vous prenez? J'optais pour Newsweek. C'était une revue sérieuse qui ne donnait pas dans l'excès. La famille White, du fait de sa richesse et de son importance dans le monde des arts, était habituée à vivre sous les feux de la rampe. Je me disais que l'article était ce que les journalistes appellent un marronnier, un sujet choisi pour meubler une période creuse, comme le prix de l'immobilier ou le palmarès des hôpitaux. que la presse en avait marre des frasques de Trump et cherchait une diversion. Et aussi qu'Edith White avait toujours été un peu folle, qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce qu'elle racontait. Je versais la monnaie rendue par le kiosquier dans le gobelet d'un mendiant qui se réchauffait sur une bouche d'aération, puis je dévalais les marches du métro. C'était l'heure de pointe. L'air sentait le diesel et les corps en sueur. Il y avait tant de monde sur la 6 que lire n'était pas une option. Lorsque je changeais pour la F à Broadway Lafayette, j'eus plus de chance. Une rame vide venait de s'arrêter à la station. J'attendis d'être assis à l'intérieur du wagon pour ouvrir enfin mon journal. Chapitre 2. Les mystères supposés de la famille White avaient eu droit à deux doubles pages, soit autant qu'un article de fond sur la politique que mon pays menait en Syrie. Le journaliste de Newsweek, sans doute un type non dénué de principe, ou peut-être seulement prudent et désireux d'éviter un procès en diffamation, avait pris grand soin de rester neutre. Afin de ne pas être accusé de parti pris, il était allé interviewer tous les protagonistes de ce qu'il appelait l'affaire White, à commencer par Edith. Il décrivait la sœur aînée de Skip comme une brune anguleuse, végane et altermondialiste, une militante de la première heure, celle par qui le scandale est arrivé. Edith, expliquait l'auteur de l'article, avait écrit un livre sur son illustre famille, et ce livre, publié par une petite maison d'édition indépendante, et dont la date de parution était aujourd'hui même, avait fait l'effet d'une bombe. Toujours selon le journaliste, les réactions de la famille ne s'étaient pas fait attendre. Caroline, la plus jeune des enfants White, la trentaine blonde et souriante, le genre de fille saine qu'on imagine sur un cheval ou à la barre d'un voilier et qui est pourtant la directrice de la galerie d'art la plus connue de Boston, avait chargé ses avocats de faire interdire l'ouvrage. Sans succès. Le fils, Skipper White, le célibataire le plus en vue d'Amérique, qualifiait le livre de ramassis de foutaise, tout en précisant qu'il ne l'avait pas encore lu et ne le lirait sans doute jamais. Quant à William, le patriarche, un cousin par alliance des Getty, un homme qui a mis l'Amérique sur la carte des grands centres culturels, il se refusait à tout commentaire. Le reste de l'article était à l'avenant. On interrogeait un avocat spécialiste des médias pour savoir s'il était compliqué d'interdire la parution d'un livre. On citait un éditeur très connu qui précisait qu'il avait reçu le manuscrit, mais l'avait refusé, par respect pour M. White et aussi parce que ce ne serait pas éthique de publier ce genre d'insinuation. On parlait de tout, sauf du plus important. Le livre lui-même. Soit le journaliste ne l'avait pas lu, soit son rédacteur avait eu peur du scandale. Après avoir parcouru la totalité de l'article, je ne savais toujours pas de quoi il y était question.
« Une sale histoire, ça, » marmonna mon voisin, un Cubain entre deux âges. « J'ai du mal à comprendre comment ils l'ont laissé faire. »
Je me tournai vers lui. Tout New-Yorkais qui se respecte met un point d'honneur à prétendre qu'il ne remarque pas ses semblables, surtout dans les transports. Mais là, c'était plus fort que moi. « Vous avez lu le livre ?» Il tapota sur sa sacoche avec un sourire entendu.
« Ma femme le voulait absolument. Je l'ai acheté ce matin.
Ils sont fous, ces gens-là. Mais de quoi s'agit-il ? Qu'y a-t-il dans ce livre pour que tout le monde en parle ?
Bon, à mon avis, c'est l'argent. Il leur est monté à la tête. » Ma femme veut en discuter dans son club de lecture, mais moi, je trouve que c'est dur quand même, avec le meurtre et tout ça. »
Le Cubain s'exprimait d'une voix forte et je remarquais tout à coup que les autres passagers nous écoutaient attentivement. Je refermais mon journal, mais c'était trop tard. Le débat était lancé.
« Moi, en tout cas, » annonça une petite dame en imperméable beige, « je n'aimerais pas que mes enfants mettent la main sur ce livre, même si, c'est sûr, tout un chacun voudra en parler. »
« C'est parce que les White sont comme les Kennedy, » renchérit mon voisin. « Ils appartiennent à tout le monde. »«
C'est notre famille royale à nous, » acquiesça la petite dame. « Ou en tout cas, ce qui s'y rapproche le plus. »
Elle jeta un coup d'œil sur sa montre.
« Si vous vous dépêchez, vous avez encore le temps d'acheter le bouquin ce soir. »
Je n'avais pas prévu de l'acheter. Les White, je les connaissais. Et aucun livre, aucun reporter ne pourrait rien y changer. Je n'avais pas besoin de lire des révélations croustillantes sur cette famille que j'estimais et qui était pratiquement la mienne. Dans un grincement des cieux, le train arriva à la station 15th Street Prospect Park. Je quittai le wagon sans un regard en arrière et pressai le pas. Une soirée en amoureux m'attendait. Je n'allais pas la gâcher en me plongeant dans un bouquin scandale.